Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre. C'est l'une des très bonnes surprises de cette rentrée littéraire, le roman de Célia Lévy, La Tannerie, une critique en règle de la branchitude. Elle est mon invitée aujourd'hui. Je vous annonce la suite du programme quand même. Le roman culte, bien sûr, nous lirons la première page de Souvenirs à vendre de Philip K. Dick, mieux connu sous le nom de Total Recall. Nous visiterons la bibliothèque du chanteur Miossec, et oui, et nous écouterons Brest aussi parce que j'adore cette chanson. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, à Vaucresson cette semaine, et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Aujourd'hui, nous partons nous balader à Pantin, à la Tannerie exactement. La Tannerie, c'est un immense bâtiment, une ancienne tannerie finalement, réhabilitée pour créer une sorte de complexe culturel très branché. C'est un endroit de rencontre aussi pour des jeunes, des artistes, des snobs aussi. À l'accueil, on trouve Jeanne, elle arrive de Bretagne. Elle est venue à Paris pour devenir libraire au départ, mais elle se retrouve accueillante à la Tannerie. C'est-à-dire qu'elle est hôtesse d'accueil, quoi. Elle est un peu perdue au propre et au figuré et l'on suit son itinéraire, son parcours. Il y a des échos à Flaubert, Balzac, mais à la manière de 2020, on va en parler, et selon les mœurs de l'époque surtout. Le livre s'appelle donc La Tannerie, c'est aux éditions Tristram, qu'on adore dans La Voix est libre, vous le savez, et l'auteur c'est Célia Lévy. Bonjour Célia Lévy.
Bonjour.
Qui est Jeanne? Qu'est-ce qu'elle fait là?
Jeanne, c'est une jeune bretonne qui, en tant que personnage, est un peu une sonde. C'est un personnage un peu vierge, qui n'a pas beaucoup de caractéristiques au début du roman, et qui a une fonction un peu d'observatrice et qui est perdue au sens propre, surtout, puisque elle ne comprend absolument pas la nature de son travail, ce qu'elle doit faire. Et elle se retrouve, comme vous l'avez dit, agent d'accueil, accueillante, maintenant c'est le nouveau terme, un peu par hasard. Et ce qui lui arrive est toujours un peu le fruit du hasard ou de l'endroit où elle est placée à un moment de sa vie ou de la journée.
Je disais perdue au sens propre et au figuré, parce qu'elle est perdue effectivement dans sa vie, dans son itinéraire, elle ne sait pas trop où elle en est, où est-ce qu'elle fait là, où elle va. Et elle est perdue vraiment très concrètement, géographiquement, dans ce lieu immense, cette sorte d'ancienne tannerie avec des machines partout. Au début, c'est très compliqué pour trouver sa place, mais au sens propre.
Voilà. Non, mais c'est vrai qu'elle est... Disons qu'elle n'a pas de but précis dans la vie. C'est-à-dire qu'elle se contente un peu, comme on dirait, de vivre. Et en ça, elle est un peu en décalage avec son temps ou avec, en tout cas, d'autres personnages. Mais si on se dit qu'elle a une vingtaine d'années, c'est pas non plus si étonnant que ça de pas exactement savoir ce qu'on veut faire ou de pas avoir d'ambition.
Tant mieux, même, d'une certaine manière.
Voilà.
Alors, le lieu est cool. Mais l'ambiance entre les membres du personnel ne l'est pas tellement. C'est Paula qui l'accueille, ou Paola, je ne sais pas, qui l'accueille au départ. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas tellement chaleureuse. Vous nous la décrivez, ce personnage qui est un archétype, en fait.
C'est un archétype. En fait, elle a une importance qui est assez mineure dans le roman.
Mais elle
accueille
l'accueillante, c'est pour ça qu'elle est intéressante.
Mais elle est la référente, quoi. Et elle devrait un peu l'aiguiller, ou du moins lui donner des indications, la faire se sentir bien, et ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que bon, on comprend qu'elle est elle-même est surchargée de travail et qu'elle a pas non plus beaucoup de temps et qu'elle a elle-même ses raisons, si on veut, de ce monde. Mais c'est un personnage qui est plutôt antipathique et pas très agréable. Quoi.
Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais heureusement, elle va rencontrer, on va en reparler d'autres de ses semblables, des jeunes et notamment Julien. On y vient. 6 heures sans pause au départ, elle ne peut même pas aller déjeuner finalement, elle traîne. Et vous avez ce talent de décrire l'ennui sans ennuyer le lecteur. Très compliqué. C'est un peu ce que faisait Flaubert en décrivant l'ennui de Madame Bovary. Mais moi, ça me fascine. Ça. Comment on fait pour ne pas ennuyer le lecteur alors qu'on est en train de décrire l'ennui, justement?
Alors,
il y a quelque chose d'excitant dans l'ennui, pardon.
Je pense qu'il y a des gens que ça a dû ennuyer quand même. Mais. Effectivement, c'est lent de décrire un sentiment intérieur qui est quand même, qui peut être universel et partagé par tout le monde, puisque tout le monde s'est déjà ennuyé. Et aussi de, c'est aussi un moment, le moment de l'ennui, c'est un moment où on ne fait rien et où on est, enfin, qui est plus propice à enregistrer des sensations et à remarquer aussi ce qui nous entoure.
Mais il y a deux ennuis. Il y a l'ennui qui suscite, qui excite l'imagination, qui oblige à créer d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est, beaucoup d'artistes ont besoin de s'ennuyer pour pouvoir créer. Et puis, il y a cet ennui-là, quoi, qui est très, qui est mortifère, quoi, qui est terne, qui est pesant.
Je ne trouve pas que l'ennui de Jeanne soit mortifère.
Ah oui ?
Non. Je trouve que c'est un ennui assez créatif. Enfin, en tout cas, assez, qui est de l'ordre de la contemplation. Et c'est plutôt qu'elle sent un décalage entre... une époque et une injonction à la rapidité, parce qu'elle, elle serait plutôt effectivement lente et contemplative comme de nature, de caractère. Et donc, son ennui, quelquefois, il prend plus, je pense hein, qu'il prend plusieurs formes, alors quelquefois c'est du malaise, alors c'est plutôt qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire d'elle-même à certains moments. Et donc, elle s'ennuie parce qu'elle ne sait pas, et en même temps, elle est, ça l'angoisse. Il y a d'autres moments où c'est un ennui qui est teinté de, d'une douce mélancolie, et où elle va décrire et regarder le ciel, les nuages. Je ne suis pas sûre que ce soit si mortifère, parce que c'est aussi des moments de contemplation et de réflexion chez elle.
Il y a aussi, c'est semblable d'une certaine manière, d'autres jeunes, alors on pourrait se dire que ça va créer des aventures extraordinaires, c'est un peu le cas, on va y revenir, mais il y a aussi cette idée qu'on va pouvoir s'ennuyer ensemble d'une certaine manière.
Oui, c'est un, l'ennui, mais à l'intérieur du divertissement. C'est-à-dire que c'est pour tromper l'ennui que ces jeunes se rassemblent et prennent des verres aux terrasses de café.
Et on va voir que ça va aussi les emmener ailleurs quand même, au-delà. La tannerie, bien entendu, elle ressemble à quelques lieux culturels connus, pas qu'à Paris d'ailleurs, dans les grandes villes. C'est le lieu de quoi, au fait, ces grands centres-là ?
Je pense que moi j'ai construit en tout cas le lieu comme une métaphore ou de ce qu'on appelle, enfin, de la social-démocratie et de la société d'aujourd'hui. Ces lieux, qui, ce qu'on appelle aussi, je crois, tiers-lieux, hein, souvent, c'est des anciennes usines désaffectées qui sont restaurées et réinvesties à des fins artistiques et culturelles, il me semble, la plupart du temps. Et où il y a, disons que c'est des lieux qui sont... En tout cas, la tannerie, le lieu que j'ai inventé, c'est un lieu qui est ouvert sur le quartier où il y a des événements artistiques et qui se veulent aussi un peu des lieux de vie bon, selon des heures de la journée. Ce n'est pas non plus des squats.
On pense au 104, on pense au lieu unique à Nantes, par exemple. Vous avez fréquenté ces lieux-là pour, comme une enquête de terrain ou vous y alliez de toute façon
Moi, j'ai travaillé dans un établissement culturel.
Vous faisiez quoi ?
J'ai été plutôt dans l'administration.
Et alors, elle est accueillante, Jeanne. pourquoi on dit accueillante ? Ça existe, ça ?
Oui, ça existe. Oui, dans la plupart des... je crois que c'est le nouveau terme pour dire... avant, on disait agent d'accueil, avant, on disait hôtesse d'accueil... Et donc maintenant, c'est accueillant. Enfin, c'est de la langue de bois. Hein. Certains diront justement de la novlangue.
Voilà, mais... c'est du pain béni pour les écrivains, ça, comme matière.
Oui, oui, oui.
On quitte la tannerie quelques instants, on respire un peu, on se retrouve tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Célia Lévy, qui signe La Tannerie chez Tristram, roman très remarqué en cette rentrée littéraire, remarqué peut-être parce qu'il dit quelque chose de l'époque. C'est donc l'histoire de Jeanne, je vous résume, qui arrive à Paris depuis sa Bretagne. Elle est engagée à La Tannerie, un lieu culturel branché, pour être accueillante, c'est-à-dire hôtesse d'accueil. Elle s'ennuie beaucoup au début, elle n'a pas vraiment d'ambition ni même de plan de carrière. L'objectif pour l'instant, c'est le CDI. C'est ça l'idéal aujourd'hui ? Célia Lévy ? Le CDI,
C'est rare. Disons que c'est rare, le CDI. Et surtout, encore plus, je crois, encore plus aujourd'hui, là, aujourd'hui, que quand j'ai écrit La Tannerie.
Mais c'est une question de survie financière ? Ou alors c'est vraiment devenu, en tout cas dans votre roman, un idéal, un truc à accomplir, quoi ?
Je pense qu'il y a deux choses. C'est que c'est un prétexte pour faire tenir le récit. même si, bon, moi je crois pas forcément au sujet, ou je pense qu'on peut écrire sur tout, mais c'est un peu, oui, le prétexte narratif. Cela dit, c'est pas non plus totalement... le personnage de Jeanne ne vient pas d'une famille bourgeoise. Enfin, en termes de sociologie et de classe sociale, elle ne peut pas se permettre de ne pas avoir de travail. Et ça, je pense qu'on le comprend assez rapidement.
C'est lutter contre la précarité.
C'est ça. Donc c'est aussi pour ça que, quand même, l'idée de stabilité... Hein. Et puis, le CDI, c'est comme... c'est quelque chose qui... elle veut rester à la tannerie. Et donc, le CDI, c'est... la garantie qu'elle restera autant qu'elle veut et qu'elle est acceptée. Il y a aussi cet aspect-là.
Et c'est là que l'on retrouve, je trouve, des échos, des passerelles avec les romans 19e de Flaubert, de Balzac. Sauf qu'à l'époque, Rastignac, par exemple, il arrive pour conquérir le monde. Et bien entendu, il se casse la gueule. Bon. Mais Jeanne, elle, on pourrait dire, peut-être la jeunesse d'aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas. Elle n'a pas l'intention de conquérir quoi que ce soit, mais elle se casse quand même un peu la gueule quand même. En tout cas, elle fait face à des désillusions. Quel est le lien entre les deux, s'il y en a un? Ou l'anti-lien?
Alors oui, c'est-à-dire que c'est un roman d'apprentissage. C'est-à-dire que je pense avoir réutilisé, mais je pense aussi pour les déconstruire, les schèmes du roman d'apprentissage ou de formation du 19e siècle. Effectivement, en fait, il n'y a aucun héroïsme chez mes personnages. Alors, il y en avait déjà beaucoup moins. Enfin, si on compare Flaubert et Balzac, il y a déjà une perte d'ambition, quand même. Enfin, les personnages sont moins grandioses que... Enfin, Frédéric Moreau n'a plus grand-chose à voir avec Rastignac ou avec Lucien de Rubempré. Mais il y a quand même encore un peu d'idéalisme.
Il y a une ardeur chez Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale. Voilà. Hein. Il y a une ardeur et puis il y a l'amour. Là aussi, il y a de l'amour. Mais il arrive, il est en vie, il y a de l'enthousiasme et tout, quoi. Là, c'est ils sont bofs, quoi.
Je crois qu'ils cherchent quand même
pas
quelque
beauf,
chose.
Hein, bof.
Oui, oui. Mais ils cherchent quand même quelque chose. Et ils cherchent une forme d'intensité, de vie, qu'ils n'arrivent pas à avoir, disons, ou à incarner. Mais cela dit, moi, je pense quand même que Jeanne, à sa façon, elle a une forme de poésie et de... Elle est ouverte au monde et elle a un lien avec le monde sensible qu'on ne peut quand même pas lui nier non plus totalement. Et puis, il y a quand même en contrepoint une jeunesse qui est quand même nettement plus engagée et plus idéaliste.
Alors voilà, c'est justement, c'est quand ils croisent des mouvements comme Nuit debout dans le roman que là, il se passe quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se transforme et qu'il est comme ça... Ils s'arment et ils sortent les dents et ils y vont, etc. Mais ils rencontrent l'époque d'une certaine manière et ça les réveille un peu.
Je pense que ça les réveille, mais ils ne s'engagent pas. Ils restent quand même spectateurs, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il peut se passer des monstruosités à côté d'eux. Bon, finalement, dans les discours, ils disent que c'est terrible, mais ils ne sont pas vraiment dans l'action. Et surtout, je pense qu'ils vivent quand même la réalité. Enfin, les personnages, les employés, disons, la plupart des employés de la tannerie, à l'exception d'un personnage quand même qui lui est engagé politiquement, ils vivent dans un monde de représentation. C'est-à-dire que s'ils vont participer à des manifestations, c'est aussi par rapport à une représentation historique, ou c'est parce que c'est à la mode, ou c'est parce qu'ils se voient eux-mêmes participants à cette manifestation.
Dans leur représentation. Alors justement, dans l'époque et dans ces lieux-là, il y a un côté tout est cool. C'est ça ce qui est troublant. Tout est super cool dans l'esprit, mais en fait, il y a un côté cauchemardesque là-dedans.
Ah oui, c'est-à-dire que c'est un peu l'horreur banale ou le...
Ah oui, l'horreur de la vie normale.
Oui, c'est l'horreur de la vie normale, en fait. C'est Krakauer qui, en parlant des employés, c'est une étude sociologique sur les employés pendant la République de Weimar, et il dit qu'il y a une jeunesse radicale qui, quand elle critique la société, prend des cas absolument extrêmes, et que cela, d'une certaine façon, occulte toute l'horreur de la vie normale. Et que on ne pouvait pas parler à ce moment-là encore de nazisme et de fascisme, mais que le caractère monstrueux d'une société naît dans et se voit, se manifeste par des faits qui sont... qui sont normaux, qui sont la normalité, qui deviennent la normalité ou qui sont banales. Et je pense que la tannerie, c'est... Enfin, le rapport, que ce soit le rapport entre les employés ou ce qu'ils vivent, enfin ce qu'ils subissent au quotidien, et aussi, par exemple, les exilés qui sont sur le canal et qui finissent plus ou moins par enjamber, c'est ça l'horreur, disons, de la vie normale. C'est, je ne pense pas l'avoir décrit comme des faits exceptionnels, et d'ailleurs, eux-mêmes ne le vivent pas tout à fait comme, ne le vivent même pas comme des faits exceptionnels, ce qui accentue l'horreur, en fait, de la chose.
C'est que ce soit normal.
C'est que ce soit normal, et vécu comme normal.
Alors, il y a quand même peut-être une solution dans ce marasme. Il y en a plusieurs, hein, en vrai, dans le roman, mais il y a quand même l'amour, comme toujours, presque. C'est ça, le ticket de sortie ?
Bah, moi, j'ai l'impression que là, pour le coup, enfin, en tout cas, dans disons que l'amour que Jeanne a pour Julien, c'est aussi une représentation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est plus, moi, il me semble, hein, elle est plus amoureuse d'une représentation que de quelqu'un, c'est-à-dire elle sait pas vraiment qui il est. Bon, si elle le voit un peu en dehors du travail, mais pas tant que ça. Il est fuyant et il est un peu une la personnification de la tannerie et c'est pas un amour très.
Mais justement, on se
vrai.
Dit que ce serait la rencontre d'un véritable amour qui pourrait la sortir de ça, qui sublimerait ça, parce qu'il y aurait pas justement de représentation. Ce serait de vivre ça, l'intensité.
Je suis pas sûre que... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu comme ça.
Il y a un manque d'intensité dans sa vie, en tout cas. Et on se dit qu'il y a que l'amour qui pourrait la sauver de ça. Et
moi, je suis pas sûre que ce soit pour elle un manque d'intensité. Le problème, je pense que c'est plutôt une forme de lâcheté et d'aveuglement. Mais elle est quand même marquée par quelque chose. Enfin, elle est quand même marquée par les manifestations, par Nuit Debout, par la contestation. Et par un discours qui est beaucoup plus... et une énergie qui est collective. Moi, je pense que si mon livre délivre un message, il serait plutôt ou une porte de sortie, ou ménage une forme de porte de sortie au désespoir, ou en tout cas au marasme de la société, ce serait plutôt dans une solution, collective.
Restez avec nous, Célia Lévy. Dans un instant, c'est le roman culte « Souvenir à vendre » de Philippe K. Dick. On part sur Mars, la planète.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Célia Lévy et son roman La Tannerie. Il est l'heure d'écouter la première page d'un roman culte. J'ai choisi Philippe K. Dick cette semaine parce que les éditions Quarto, vous savez, les gros volumes tout blancs, ont republié l'œuvre du maître de la science-fiction. Philippe K. Dick, parfois on le connaît sans le connaître. On lui doit la plupart des grands films de science-fiction adaptés de ses livres. Minority Report, par exemple, avec Tom Cruise, Blade Runner ou Total Recall avec Arnold Schwarzenegger. C'est une nouvelle, en fait, qui en français donc s'appelle « Souvenir à vendre ». C'est l'histoire de Douglas Quayle. Il est employé, il ne roule pas sur l'or, il s'ennuie ferme et sa femme ne l'aide pas. Elle est vraiment casse-pied pour être polie. Or, le rêve de Douglas, c'est de partir en vacances sur Mars. On est dans le futur, c'est un truc qui se fait très bien. Mais c'est cher, trop cher. Alors Douglas tente la version low cost. Il se rend chez Recall, une société qui propose des faux souvenirs, c'est-à-dire qu'on vous implante dans le cerveau de faux souvenirs, ça fait pas mal. Après ça, vous êtes plus que persuadé d'avoir vécu le voyage, mais comme si vous l'aviez vraiment fait. C'est dans votre mémoire, au même titre que n'importe quel souvenir, sauf que donc vous ne l'avez pas réellement vécu. Douglas y va donc, paye, s'installe sur la machine. Il demande le souvenir de 15 jours de vacances sur Mars avec la totale, du calme, de la découverte, des randonnées, des vraies bonnes vacances, quoi. Mais quand il s'endort sur la machine pour l'implantation, les choses ne se passent pas comme prévu. Les techniciens ne savent pas ce qui se passe, mais ils s'aperçoivent que certaines zones de la mémoire de Douglas ont déjà été effacées par quelqu'un et du coup, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas implanter les souvenirs de vacances. Douglas se réveille dans un taxi et il est furieux. Il n'a pas le souvenir qu'il avait commandé. L'histoire commence et la folie aussi. Ça donne un chef-d'œuvre. On écoute la première page, lue par le comédien Philippe Dussault, qui a lui une sacrée mémoire.
Aussitôt réveillé, il eut envie de Mars. Ses vallées, songea-t-il. Comment est-ce d'enfouler le sol ? Le rêve prenait de l'ampleur à mesure que la conscience lui revenait. Le rêve est le désir ardent. Il sentait presque la présence enveloppante de cet autre monde que seuls les agents du gouvernement et les personnalités haut placées avaient pu visiter. Les petits fonctionnaires comme lui n'avaient que très peu de chances d'y aller. « Tu te lèves, oui ou non ?» demanda Kirsten, sa femme, d'une voix ensommeillée où pointait une mauvaise humeur aussi virulente que coutumière. « Quand tu seras debout, appuie sur le bouton café chaud de cette maudite cuisinière. »« D'accord. » répondit Douglas Cale, qui, pieds nus, se rendit à la cuisine du Connaught. Il s'exécuta docilement, puis s'assit à la table et sortit une petite boîte jaune d'excellent tabac à priser de marque Dean Swift. Il inhala énergiquement et le mélange Beau Nash lui picota le nez avant de lui embraser le palais. Il continua quand même à renifler, ça le réveillait et permettait à ses rêves, ses désirs nocturnes, ses aspirations aléatoires, de se cristalliser en revêtant un semblant de cohérence. « Un jour j'irai », se disait-il. « Je verrai Mars avant de mourir. » C'était impossible, bien sûr. Et il le savait pertinemment, si rêveur qu'il fût. Pourtant, la lumière du jour, le bruit si banal de sa femme qui se brossait les cheveux devant le miroir de la chambre à coucher, tout contribuait à lui rappeler ce qu'il était en réalité. « Un minable petit salarié », se dit-il amèrement. Kirsten le lui rappelait au moins une fois par jour, et il ne pouvait pas le lui reprocher. Aux épouses de ramener les maris sur terre. « Sur terre », s'esclaffa-t-il. C'était le cas de le dire. « Qu'est-ce qu'il fait ricaner ?» demanda sa femme en pénétrant en coup de vent dans la cuisine, vêtue d'une longue robe de chambre rose dragée dont les pans flottaient derrière elle. « Un rêve !» je parie. « T'en as toujours la tête farcie. »«
Bon, on va s'occuper de cet émetteur que t'as dans la tête. Sors ce truc de la valise et tu te l'enfonces dans le nez. »
C'était la première page de Souvenirs à vendre de Philippe K. Dick, Total Recall, lu par Philippe Dussault. Merci à lui. À suivre, visite de bibliothèque, rendez-vous chez Miossec. Ça va être doux. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue, nouvelle page, on sort un peu du studio à la rencontre de Miossec qui a récemment réédité son album Boire et puis il y a la sortie de l'EP aussi qui s'appelle Falaise. C'était l'occasion de visiter sa bibliothèque. Allons-y. Bonjour Miossec.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Enfin, c'est pas vraiment chez vous, c'est un petit pied-à-terre que vous avez à Paris. Dans le 20e arrondissement, dans un drôle d'endroit. Là, quand on est entré avec votre attaché de presse et Julien, notre ingénieur du son, on s'est un peu paumé, c'est un peu labyrinthique et tout. Et c'est très rigolo comme endroit. On est où, en fait ?
Ben, le but du jeu, ouais, c'était un peu ça. On n'est pas trop à Paris. Je voulais un endroit qui ne soit pas trop parisien. On est au métro Pyrénées, quoi, dans le quartier Pyrénées. Mais ouais, j'ai l'impression d'habiter dans la cale d'un bateau, quoi, en fait.
Oui, c'est ça. Et alors, c'est quoi cet endroit ? Parce qu'effectivement, là, c'est une pièce, quoi, avec des poutres métalliques. Ça fait un peu un ancien entrepôt qui a été refait, je ne sais pas trop.
Ouais, c'était un ancien entrepôt de stockage pour la Gaumont, en fait, pour les décors de cinéma. Ouais. Vu qu'il y avait la télévision, les buts de Chaumont qui étaient juste à côté, ça servait d'entrepôt. Mais il y a des très grands lofts au-dessus. Et puis, moi, je suis à l'entresol, vraiment à fond de cale.
Je pense beaucoup à vous en ce moment, parce que tous les matins, je sors et je chantonne « Tonnerre de Brest » et « Nom de Dieu que la pluie cesse ». Là, vous n'êtes pas dépaysé hein, en ce moment à Paris, là, avec la pluie. Mais vous aimez ça, au fond, la pluie ?
Bah, la pluie, c'est une protection incroyable. Enfin, j'habite le Finistère Nord et c'est un des coins de France où on est à l'abri du tourisme de masse. Quoi, en fait. Donc la pluie, c'est la meilleure protection qui soit. Moi, je l'aime, cette pluie.
Il pleut que pour les cons, on dit en Bretagne.
Non, sur les cons. Enfin, mais c'est une expression, c'est Kersauzon qui l'a popularisé. Mais c'est vrai que c'est les gens qui font la réflexion. Il pleut, oui, voilà. Il pleut sur ceux qui font la réflexion, sur le fait qu'il pleuve.
À la fois, la pluie, c'est aussi... c'est assez littéraire, en fait, la pluie. Il y a un côté poétique, mélancolique aussi dans la pluie.
Oh, bah, la pluie, c'est un peu l'allié des écrivains, parce que l'écrivain, quand il est chez lui, quand il est reclus, quand il est... La pluie va dans son sens, en fait.
Vous habitez Brest, et donc vos livres sont plutôt à Brest. Là, vous en avez ramené quelques-uns pour qu'on puisse en parler quand même. Mais elle est comment, votre bibliothèque, là-bas ? C'est très fourni, ou alors vous triez sans arrêt, vous enlevez, ou vous gardez tout ?
Ben, je pense que le confinement a bouleversé toutes les bibliothèques françaises. Je pense que les gens ont eu le temps de trier, de regarder ce qu'ils avaient chez eux. Enfin, c'est assez dingue. Ouais, puis bah, du coup, moi, j'ai gardé à portée de main tout ce qui relève de la poésie, en fait. Et tout ce qui est de l'ordre du roman, des choses comme ça, que je relis peu ou pas, sont entreposées hein, hors de vue.
Et vous avez fait quoi des livres que vous avez évacués, alors ? Vous les avez donnés ? Vous avez Vous avez laissé sous un abribus ?
Ouais, non, j'ai pu donner à des gens que j'aime bien. Puis j'ai un copain qui est brocanteur à Douarnenez et qui tient un dépôt de vente en même temps, donc c'est chouette.
Alors donc je disais, vous avez amené quand même quelques livres. Et lesquels ? Alors c'est ceux-là, je dois admettre, il n'y en a aucun que j'ai lu. Il y en a six. Si, il y en a un quand même que j'ai lu un peu. On va commencer par lui. C'est juste la Pléiade de René Char, le poète, les œuvres complètes. Pourquoi vous l'avez amené ? Vous aimez particulièrement René Char ?
Ah oui, j'aime beaucoup René Char. Ouais, c'est même terrassant, René Char. Mais je l'ai emmené parce que c'est un copain. C'est Hervé du Bikini à Toulouse, la fameuse salle de spectacle. Il me l'a offert pendant la tournée. Et c'est agréable comme ça, quand on est en tournée, d'offrir, de se voir offrir des livres.
Et c'est quoi ce qui vous plaît particulièrement plus chez René Char que chez un autre ? C'est une sonorité ? C'est une musique ? C'est les thèmes ?
C'est une musique torrentielle. On a l'impression qu'il y a une inspiration qui est pratiquement tout en là. Enfin, c'est pratiquement un flux tendu, René Char. C'est très impressionnant. Mais c'est... Bah, il écrit aussi un peu de la façon dont il parlait, quoi, parce que c'est vrai que c'était également un torrent, quoi, de paroles.
J'avais eu cette discussion avec Hugo Frey quand j'avais visité sa bibliothèque. On avait parlé de la différence entre un poème et une chanson. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent ça n'a rien à voir et d'autres qui disent c'est juste un poème qu'on chante. Vous en pensez quoi, vous ?
Ça n'a rien à voir.
Alors, quelle est la différence ?
Rien à voir.
Parce que Tonnerre de Brest, que je chantonnais tout à l'heure, ça, si on la lit, c'est une poésie aussi.
Je ne trouve pas, non. Non, pour moi, j'aurais écrit une poésie sur Brest, je n'aurais pas du tout écrit ça, en fait. Non, la différence entre une poésie et une chanson, c'est que la chanson, quand elle écrit, la chanson n'est pas faite pour être lue. La chanson est faite pour être entendue, donc la chanson n'est pas... Ce n'est pas des mots couchés sur le papier, ce sont des mots qui s'envolent dans l'air, quoi, en fait. C'est des mots qu'il faut saisir, qui sont là pour leur sonorité, leur son, leur sens. Mais ça tiendrait qu'à moi, il n'y aurait jamais les paroles des chansons dans les, dans les livrets de disques. Parce que pour moi, c'est même, je trouve, assez horrible de lire une chanson. Parce qu'on lui enlève sa raison d'être, qui est la musique, qui est le son.
Donc Bob Dylan, qui a le prix Nobel de littérature, pour vous, c'est un peu incongru ?
Oui, c'est complètement incongru. À vrai dire, je suis très content pour Bob, hein, qu'il ait
le Nobel. Qui est un pote.
Oui, voilà. Non, c'est le pote d'Hugo Frey. Ce qui est vrai en plus. Ouais, ouais. Il le cite dans ses chroniques. Non, parce que Bob Dylan a fait des romans qui sont soit mal traduits, soit illisibles, mais sont vraiment pas bons. Non, je pense qu'il a eu le Nobel pour l'ensemble de son œuvre, mais pas, c'est pas un Nobel de poésie.
Et alors, en parlant de poésie, vous avez amené deux autres... recueil de Franck O'Hara. Qui c'est Franck O'Hara ? Vous nous le présentez un peu ? Et pourquoi ces deux-là ? Poèmes déjeuner et méditation dans l'urgence.
Ouais, j'ai pris des poèmes de Franck O'Hara parce que c'est un poète de ce qu'on appelait l'école de New York. C'est toute une école de poésie qui s'est montée comme ça. Enfin, c'est assez étonnant, ils viennent souvent de l'Oklahoma, ces gars-là. Enfin, c'est assez fou et ça a vraiment apporté un souffle nouveau dans la poésie, quelque chose qui se extrêmement peu académique et très profondément américain en fait. Et Franck O'Hara, c'est lui qui avait écrit la première fois le Je me souviens, qui avait fait un poème sur le thème du Je me souviens, qui a été repris après par Pérec. Mais Franck O'Hara, autrement, c'était un copain aussi à Ron Padgett. Enfin, il y a un film de...
Le célébrissime Je me souviens de Pérec, Je me souviens de toi qui fais signe,
ouais, voilà.
C'était en fait inspiré de Franck O'Hara.
Pas inspiré.
Ah d'accord, copié carrément, traduit quoi.
Ben pris le principe quoi en fait, ce qui est complètement pompé on peut dire. Mais ce qui n'est pas grave parce que Pérec en a fait quelque chose de bien. Mais... Et Ron Padgett, on le connaît peut-être pour un film qui s'appelle Patterson de Jim Jarmusch.
Ah oui, avec Adam Driver.
Ouais, voilà.
C'est l'histoire d'un poète chauffeur de bus qui le midi s'arrête, déjeune son petit pique-nique et écrit des superbes poèmes. Et en fait, les poèmes en question, effectivement, c'est pas le Jim Jarmusch qui les a écrits.
Non, c'est Ron Padgett. Et c'est pareil, c'est la même maison d'édition française, c'est Jocasseria, qui est basée à Nantes et qui fait un super boulot, je trouve, depuis quelques années.
Vous rigolez quand vous dites Nantes, parce que je vous ai dit que j'étais nantais
et que
Nantes n'était pas en Bretagne. Mais vous avez, pour vous, c'est Voilà, c'est une polémique qu'on peut pas avoir là.
C'est pas une polémique, mais... c'est Pétain, comme je disais tout à l'heure, qui a bouté Nantes hors de la Bretagne en 1943. Donc,
Oui, mais on s'en sort bien quand même.
C'est vous qui le dites.
Ça ferait concurrence à Rennes en plus, si on revenait.
Je sais pas, Nantes, Rennes, ouais, c'est des problèmes de pouvoir qu'on n'a pas à Brest.
Pour revenir à Franck O'Hara, vous avez pris deux recueils. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, l'un répond à l'autre, ou ils sont très différents, ou parce que vous auriez pu en ramener qu'un. Est-ce qu'il y a une raison particulière ?
Oh, c'est parce qu'ils sont pratiques à mettre dans une valise, en fait. Ils sont très légers, donc tout va bien.
Il va falloir nous en lire un, peut-être, quand même, pour qu'on puisse écouter, quoi. Est-ce qu'on se rende compte un peu ?
Oui, mais la lecture de poésie, je trouve, tue la poésie.
Ah.
Comme l'analyse de la poésie tue la poésie aussi. Enfin, je veux dire, on nous a tous dégoûtés avec ces analyses de poèmes un peu stupides qu'on fait à l'école. Et non, il n'y a pas pire que d'expliquer un poème et de le lire. Je trouve que c'est prendre le pouvoir sur le poème, alors que le poème est ouvert à chacun. Enfin, chacun doit trouver sa voix dans le poème.
Je comprends ce que vous voulez dire. Et à la fois, ça peut être aussi une belle manière de la partager. Il y a la Maison de la Poésie à Paris qui fait des spectacles comme ça, où il y a des lectures de poèmes alternées avec un peu de musique. Et c'est assez beau, en fait. Même si, effectivement, on le lit tous différemment, si on regarde juste la page. Effectivement, comme vous dites, ça confisque un peu le ton de la poésie.
Ou la poésie vient au secours aussi du chanteur en mal d'inspiration qui a besoin de monter un spectacle.
Et vous, d'ailleurs, vous dites que poème et chanson, ça n'a rien à voir. Mais quand même, est-ce que ça vous contamine quand vous écrivez une chanson, tel ou tel poème? Ça peut vous servir de rampe de lancement ou de point de départ.
Ah oui, le mot contaminé, c'est vraiment ça. Oui, je lis beaucoup de poésie pour me faire contaminer, en fait, pour me faire prendre soit par un style, soit par une histoire. Mais enfin, je pense que pour être parolier, c'est pas idiot de lire la poésie.
Et alors, il y a le titre du recueil. Moi, je suis toujours fasciné par les titres de recueil de poésie, parce que comment on donne un titre à un recueil, c'est très compliqué, comme pour un album d'ailleurs.
Il y a encore pire, c'est comment on traduit de la poésie, en fait.
Ah oui.
Parce que traduire de la poésie, c'est quasiment mission impossible, en fait. Mais je ne sais rien, il y a quelqu'un comme Marchentier qui est un super traducteur de l'américain. Il a traduit notamment Carver, des choses comme ça. Mais du coup, il faut aimer le traducteur, enfin, faut aimer sa traduction. Parce que c'est vrai que pour traduire une poésie, on pourrait en faire...
On lit le traducteur, en fait.
On lit le traducteur, donc faut aimer les maisons d'édition, en fait.
Et vous ne lisez pas en VO, en anglais ?
Si, je peux le faire, mais c'est pas... Comment dire ça ? Je ne suis pas suffisamment anglophone. Enfin, je peux comprendre, mais de là être saisi justement par la poésie, faut être un peu plus connaisseur de la langue.
Vous avez une fascination particulière pour l'Amérique ? Ou pas particulièrement ?
Oh non.
Vous connaissez un peu ? Vous êtes allé vous balader justement à Patterson et tout ça ou...
Non, pas vraiment. Non, à vrai dire, l'Amérique, c'est pas... Enfin, je connais que New York, en vrai dire.
Parce qu'après Brest, c'est l'Amérique, finalement.
Oh, on la voit tous les matins, la Statue de la Liberté. Ouais, ouais.
Là, il n'y a pas eu cette idée, quand vous êtes à Brest, justement, de regarder l'océan et de vous dire, tiens, ouais, c'est juste là, en fait, quoi. C'est tout droit.
Ouais, disons qu'il y a Jacques Kerouac qui est venu à Brest, dans sa théorie à Paris. Il raconte un peu sa virée à Brest, qui était quand même vraiment très drôle. Et dès que j'étais adolescent, ouais, Kerouac, c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que Ker, K-E-R, c'est oui. Breton, évidemment. Et son grand... Enfin, il venait du côté du Helgoët, donc il était venu à la recherche d'un magot que ses descendants auraient planqué dans un coin qu'il n'a jamais trouvé, évidemment.
Il parlait très bien français, d'ailleurs.
Oui, et il signait ses lettres Kenavo dans ses correspondances avec Youen Gouvernic, un autre poète breton.
Alors, vous avez emmené aussi Henri Calais, le livre 30 à 40. Au Mercure de France, une vieille édition. C'est quoi ? Pourquoi vous l'avez apporté ?
Ah, celui-là, il était là. Mais à vrai dire, Henri Calais, c'est pour moi, c'est quasiment un des plus grands écrivains français, absolument méconnu, enfin complètement troisième, quatrième division. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un écrivain pour les écrivains, quoi. En fait, mais sa langue est absolument superbe. C'est d'une sobriété folle.
Un écrivain pour les écrivains, qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'il est, d'une certaine façon, Henri Calais, il est trop malin, trop intelligent pour faire juste des romans bêtes et stupides comme on lit tout le temps, enfin comme on en voit tout le temps. Enfin, la forme romanesque, ça peut être très fatigant, et Henri Calais s'amuse avec ça, quoi, en fait. il n'est jamais dupe de rien. Enfin, il est vraiment. Et c'était vraiment un écrivain enfin, qui a été soutenu par Jean Paulhan, par Gallimard, par hein, tout le monde, même s'il ne vendait pas beaucoup, ça, très peu. C'est... Mais du coup, ça fait depuis 30 ans que j'offre du Henri Calais à droite à gauche. Donc,
Ah, c'est le livre que vous offrez
Ouais, ça fait partie.
C'est l'auteur que vous offrez
Et Georges Perros, qui est le grand absent là, de ma liste.
Ça veut dire quoi, offrir un livre? Ça veut dire, tiens, je te donne un peu de beauté? Ou ça veut dire, tiens, cette vision du monde-là, j'aimerais bien qu'on la partage, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre?
Ouais, c'est de faire plaisir déjà, mais les retours que je peux avoir en offrant Calais et Perros font que je continue à le faire, quoi. Du coup, je sais que je le ferai jusqu'à la fin de ma vie, d'offrir du Henri Calais, du Georges Perros.
Et dans 30 à 40, le livre que vous avez amené, là, il se passe quoi?
Il se passe, c'est ce qui se passe dans la vie d'un homme entre 30 et 40.
Ah d'accord, faut que je le lise alors.
Voilà, c'est un cœur de cible.
Mais c'est désespéré, c'est plein d'espoir, c'est...
C'est absolument désespéré, mais c'est toujours drôle.
Je m'en doutais.
Mais c'est drôle.
Bah voilà, bah c'est ce qu'il y a de plus drôle, le désespoir.
Il y a un putain d'humour chez Calais.
Alors il y a un autre livre à côté que je ne connais pas, de Georges Hiverneau, mais le titre est superbe. Feuilles volantes, au pluriel,
oui.
À la dilettante. Qu'est-ce que c'est?
Ah, Georges Hiverneau, c'est pareil, c'est comme Calais, ça fait partie des écrivains qui sont pas... qui ne sont pas au Panthéon, qui ne sont pas en tête de gondole et librairie, mais Hiverneau, La peau et les os, c'est vraiment c'est un petit bijou, quoi. Ça raconte le camp de travail en Allemagne pendant la guerre. Mais c'est pareil, ça pourrait être absolument sinistre, mais c'est extrêmement drôle. Enfin, mais Calais, Hiverneau ont en commun cet humour, quoi, en fait, qui est vraiment fabuleux.
Et puis il y en a un dernier, là, un tout petit livre, Fleurs plantées par Philippe, par un de vos collègues, Dominique Anné. Et c'est Dominica, en fait.
Oui, voilà. Et ce n'est pas du tout du copinage, parce que c'est un petit livre paru au...
60 pages.
Mediapop édition. Et c'est un petit livre que j'ai déjà relu deux fois, quoi, en fait. Enfin, c'est... Dominica, là, vraiment tenu... Hein. Enfin, le sujet est fabuleux, comment il aborde, comment il le travaille, enfin, comment ça se lit.
C'est quoi, le sujet?
C'est le fait que Philippe Pascal, le chanteur de Marquis de Sade, avait contacté Dominique via sa femme pour écrire des paroles pour le dernier album de Marquis de Sade. Et Philippe Pascal s'est suicidé avant que l'album ait vu le jour. Donc c'est tout ce qui se passe dans la tête de Dominique à ce moment-là, quoi, en fait. Et la relation aussi avec une idole, parce que Philippe Pascal, je fais partie de ces gens qui ont eu la chance de le voir en début des années 80 et... Il n'y a jamais eu un chanteur français sur scène avec autant de charisme que Philippe Pascal, quoi.
Et Dominique a écrit ce livre. Vous écrivez ou pas de la poésie ou du roman ou du journal?
Bah, je fais des chansons, ce qui est déjà... Comment dire ça? J'adore ce boulot de faire d'écrire des chansons. Mais non, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui font de bons bouquins. Donc...
Mais est-ce que vous avez quelques manuscrits dans un tiroir que vous ne voulez pas dévoiler, mais qui sont là quand même?
Ouais, j'ai des trucs, mais il n'y a pas... Non, j'ai pas...
Ça ne mérite pas, pour vous?
Oh, il y a trop de romans qui sortent. Enfin, la forme romanesque, en tout cas, c'est quelque chose qui m'emmerde quand même pas mal. Enfin, le problème, c'est que je vois l'écrivain en train d'écrire souvent. Enfin, c'est terrible.
Et le compositeur de chansons, vous ne le voyez pas? Parce que moi, je le vois avec la lune encadrée dans la fenêtre, voyez, avec une plume d'oie et tout ça. C'est pas ça? Comment non. Vous écrivez les chansons? Ça peut être partout ou il faut que vous soyez dans un contexte très particulier?
Bah, une chanson, c'est un peu bête, c'est un peu court, ça vient d'un élan, quoi. Donc une chanson, souvent, ça s'écrit. Enfin, je trouve que les chansons qui tiennent le coup s'écrivent très rapidement. Il faut que ça tombe. Hein. Comment dire ça? Une chanson doit avoir un souffle, donc... Si on la travaille trop, on perd le souffle, on voit les bouts de sparadrap, les coupures, les trucs, non. Enfin, pour moi, les bonnes chansons, non, elles viennent sans problème, en fait.
Mais quand vous la couchez sur le papier, c'est vite fait, comme ça, dans un coin, ça peut être dans un bistrot ou tout ça, ou alors il faut que vous soyez
pas,
dans un endroit...
Surtout pas dans un bistrot. Ah non, je n'aime pas les gens qui écrivent en public, je trouve ça indécent. Enfin...
Et mais alors vous écrivez où? Vous avez un bureau? Vous avez...
Ouais, j'ai...
Vous voulez pas me dire?
Non, non, parce que je... Comment dire ça? La chanson, c'est pas comme la littérature. C'est on n'a pas besoin d'horaires fixes, de choses comme ça. De somme de labeur est beaucoup moins important Ouais, non, si en 10 minutes, un quart d'heure, la chanson n'est pas écrite, c'est qu'elle n'est pas terrible, terrible, quoi, en fait.
Merci beaucoup, Miossec.
Merci.
On vous laisse, on va écouter une de vos chansons, d'ailleurs.
Merci.
De retour en studio, et je rappelle donc le titre de la réédition de l'album de Miossec, Boire, c'est fastoche. Dans un instant, plein d'autres livres, il est l'heure des libraires, à tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire pour un conseil. Des conseils, nous partons donc à Vaucresson, chez Thibaut Raden, librairie L'Écriture, qui a rouvert ses portes. Allons-y. Bonjour Thibaut Raden.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir. Vous nous avez préparé 3 coups de cœur aujourd'hui. Toujours un peu improbable, hein. On est avec Thibaut Raden, forcément, je vous écoute.
Vous allez faire de moi une entité bizarre après. Je vais commencer par effectivement, peut-être un petit truc improbable, ne serait-ce que le format. Donc, c'est Fait extraordinaire sur la vision des couleurs de Camille Bordas aux éditions Inculte.
Fait extraordinaire sur la vision des couleurs.
C'est 3 nouvelles qui racontent l'histoire de 3 femmes. Ça vous fait 3 portraits de femmes qui sont tous, dès le départ, assez étranges. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, ce qui vous arrive, vous la suivez et vous adorez la suivre parce qu'en fait, Camille Bordas a une écriture. C'est génial. C'est un plaisir, le vrai plaisir éprouvé à lire quand on ouvre un de ses bouquins. Moi, je l'ai lu en marchant, je l'ai fini en marchant, j'en pouvais plus.
Ah oui, vous m'avez dit que vous lisez en marchant, vous, sur le retour du travail de la librairie.
Ouais, ou en venant. Et celui-là, en fait, quand je l'ai vu, sachant qu'il n'est pas très grand que ces 3 nouvelles, je me suis dit, je suis obligé de me le faire. Donc voilà, une petite demi-heure. J'ai adoré rentrer chez moi, quoi. Enfin, pas pour rentrer, mais pour la lecture. C'est ce genre de livre. Ça fait un bien fou.
Ensuite,
complètement différent, Le Tigre de John Vaillant, c'est chez Libretto. Alors c'est une édition, c'est réédité en une petite édition collector. C'est en fait une histoire vraie d'un tigre en Sibérie orientale qui a tué plusieurs hommes, mais non pas pour se nourrir, mais avec l'intention de tuer. Et il y a un petit côté Moby Dick qui fonctionne bien là-dessus, où on est un peu suivi par ce tigre. Et en fait, c'est raconté par un journaliste, donc c'est une écriture très journalistique. On vous donne énormément de faits sur cette époque-là, c'est en 90, et sur la Sibérie orientale. Mais en fait, on apprend énormément de choses. Et moi, j'ai compris plein de trucs sur la nature humaine, en fait, en lisant ce bouquin. Parce qu'on vous parle de la chasse, du braconnage, tout ça. On vous explique la différence et pourquoi la chasse peut être indispensable. Je suis contre ce genre de choses, mais comment c'est fait en fonction de comment il le raconte, l'auteur, j'arrive à comprendre. Et j'arrive à comprendre aussi le tigre, beaucoup le tigre, il n'exprime pas de sentiments parce que, on ne sait pas, mais vraiment on le comprend lui aussi. Et il y a ces 2 rapports qui fonctionnent et qui fait que c'est un livre qui est hyper, hyper intéressant.
La couverture est aussi très intéressante, vous nous la décrivez ?
Ouais, alors le tigre c'est écrit en vert, il y a une forêt en premier plan et puis en fait en espèce de fondu dessus et d'imprimé, il y a un tigre en fait qui est fait dessus. Comme si le tigre regardait toute la forêt et nous regardait par-dessus.
Alors, on a fait Camille Bordas, John Vaillant, il est de quelle nationalité ?
Il est américain.
Et ensuite, alors là c'est une bande dessinée, en tout cas c'est un grand format. Qui est très jolie aussi, une très belle couverture, encore un peu futuriste. Là.
Ouais, c'est une bande dessinée qui s'appelle Connexion et c'est de Pierre Janot. C'est un premier tome et c'est une bande dessinée qui est hyper originale. Alors je vous la montre en parlant. C'est une bande dessinée qui raconte la vie de trentenaires. C'est un peu leur quotidien, ce qu'ils ont perdu dans la vie, l'amour en général, beaucoup, les déceptions au travail, tout ça. Mais comment c'est fait ? C'est un truc de ouf, franchement, voilà. Donc on ouvre dès le départ, on a une page qui est presque noire avec juste une ouverture très architecturale sur la chambre et un mec qui dort. Et en fait ce mec se réveille, il ouvre la porte et en fait plus il avance, plus il y a de salles qui se sont
dessinées. Le décor se dessine au fur et à mesure.
Exactement, vous découvrez le décor en même temps presque que le personnage. Du coup vous avez une immersion qui se fait à l'intérieur et à chaque fois... Ce qui est superbe aussi, c'est que plus il vous ouvre le décor, plus il vous montre des choses. C'est-à-dire que le personnage peut discuter, parler, mais à côté de ça, vous avez une bulle qui va vous montrer une photo. Et sur cette photo, il va y avoir un ancien truc. Enfin, il y a tout un tas de choses. C'est hyper florissant. C'est une BD qu'on lit parce que c'est écrit, mais qu'on lit aussi beaucoup avec les yeux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir. C'est plaisir. C'est un plaisir de dingue. Une super découverte. C'est quelque chose que je recommande beaucoup.
Connexion au pluriel de Pierre Janot, c'est chez qui ?
C'est aux éditions Tanibis.
Merci beaucoup Thibaut, à bientôt.
À bientôt, Nicolas, merci.
Europe 1.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous nous présentez une BD intitulée « À qui si ?» Enfermé dehors de Marguerite Abouet, illustrée par Mathieu Sapin.
Oui, c'est l'histoire d'une petite fille, donc à qui si, qui vit dans un quartier populaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, je ne vous parle que maintenant d'Akissi, mais elle est déjà très célèbre dans le monde de la littérature jeunesse. Cette BD que je vous présente, c'est déjà le 10e tome des aventures de cette petite fille, exactement. Et pour ce dernier numéro, Akissi fait encore plein de bêtises, elle adore ça. Un coup, elle réussit à changer son cadeau de Noël, une poupée bien trop blanche qui ne lui plaît pas, avec sa copine. La jeune fille de 7 ans se met dans la tête de soigner un bébé un autre jour qui pleure tout seul dans la rue. Ça finit entre éosine, maquillage et charbon, je vous laisse découvrir la suite. Un dernier album qui est, vous allez le voir, parfaitement d'actualité.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui arrive ?
Elle, comme tous ses copains et copines, vont connaître ce que la plupart des enfants dans le monde ont découvert en mars-avril. Le confinement, bien sûr. Ça commence par une allocution télévisée du président de la République qui explique d'abord que les écoles vont fermer, tous les enfants sortent dans la rue, sautent de joie. Sauf que quelques minutes plus tard, le chef de l'État précise que tout le monde devra aussi rester chez soi. C'est le drame. La suite, c'est Antonin, Ginevra, Anna et Milan, élèves de CM1, CM2 de l'école d'Henri Raymond à Paris, qui vous la raconte.
Votre mère et moi allons travailler pendant quelques temps à la maison.
Si on doit rester enfermé sans sortir, moi je préfère aller voir mémé au village.
Chérie, toutes les personnes âgées doivent rester autant que possible loin de nous.
Mais c'est qui ce virus qui interdit aux gens de sortir et de se voir ?
C'est un virus qui se transmet surtout par des gouttelettes quand une personne infectée tousse, éternue ou expulse l'air de ses poumons.
Pour ne pas être infecté, il faut se laver souvent les mains avec du savon.
Rester à distance de toute personne qui tousse ou éternue.
Ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa bouche.
Et surtout, on doit respecter les indications des autorités sanitaires locales.
Mais comment on va manger si on ne peut plus sortir ?
Toi, il n'y a que ton gros ventre qui t'intéresse.
Et puis bien sûr, Akissi et sa famille vont éprouver quelques difficultés à vivre tous ensemble confinés, mais je vous laisse bien évidemment découvrir la suite.
Vous les coachez, vos CM1, CM2 ? C'est à chaque fois encore un petit peu mieux à chaque fois.
Ouais, je les coach.
Et déjà au début, c'était très bien, donc dites donc.
Je les coach.
Question rituelle, à partir de quel âge ?
Alors, on peut le lire à partir de 6 ans sans problème, 6-7 ans finalement, c'est l'âge d'Akissi. C'est une BD très bien amenée, drôle jusque dans les traits des visages de tous les personnages. Et si vous appréciez le style, je vous conseille vraiment les autres tomes. Vous pouvez piocher au hasard, ils sont tous réussis. Et les auteurs préparent déjà le prochain numéro avec peut-être une petite surprise, un départ pour la France à suivre.
On rappelle le titre, Akissi, enfermé dehors. C'est Marguerite Abouet, illustrée par Mathieu Sapin aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Célia Lévy, c'est quoi le premier roman que vous avez lu, ou le premier livre, pas forcément jeunesse d'ailleurs ?
Je crois que ça doit être Les Malheurs de Sophie, mais je crois qu'on, enfin, je suis pas sûre que ce soit moi qui l'ai lu. Je pense qu'on
me, vous l'a lu ?
On me l'a lu. Le premier roman, je crois que ça doit être Michel Strogoff.
De Jules Verne.
Voilà.
Ben ça c'est marrant, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous savez plus si vous l'avez lu ou si on vous l'a lu. C'est-à-dire que vous avez quand même eu conscience de lire un livre même si on vous le lisait.
Bah, je pense qu'on a commencé à me le lire très très tôt, genre 2 ans, 3 ans. Quoi. Je sais que c'est le premier livre qu'on m'a lu. Enfin bon, il y avait les contes aussi, mais alors là pour le coup, c'était pour moi, enfant, c'était culte. Et donc, c'était ma grand-mère qui me l'avait offert et qui m'a dit c'est ton premier livre, ça je m'en souviens. Et elle me le lisait ou ma mère me le lisait aussi. Et je pense que du coup, dès que j'ai su lire, j'ai sûrement dû prendre ce livre-là. Mais je le connaissais déjà par cœur, donc savoir quand est-ce que je l'ai vraiment lu, si je reconstitue a posteriori, c'est difficile.
Vous l'avez relu depuis ces dernières années, je veux dire ?
Oui, je le relis toujours une fois par an. Oui.
Une fois par an ? Ah, d'accord. Ah, on est bien tombé. Merci beaucoup, Célia Lévy. Je rappelle le titre de votre roman, La Tannerie, c'est chez Tristram. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu. L'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.